France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Prendre un bain dans le Gange, c'est prendre un bain dans le ciel. Tout hindou doit venir au moins une fois dans sa vie à Bénarès. Alors mourir à Bénarès, on se trouve de fait libéré du cycle des naissances. Le Gange, il n'avait pas changé de place. Il semblait ne pas bouger, ne pas s'écouler, ou bien toujours s'écouler et pourtant toujours être le même. Dans la ville la plus sacrée de l'Inde, on voyait la nuit se refléter les bûchers de crémation sur le fleuve, le 25 mars 1986, et sur France Culture, dans la matinée des autres.
Sous la conduite de Pierre Amado, directeur de recherche au CNRS, en compagnie de Lanik Kaur, de Loknath Bhattacharya et du pandit Veer Bala Mishra, Claude Dupont vous invite à passer cette matinée des autres dans Bénarès, Bénarès d'eau et de feu, dans une réalisation de Jean-Claude Duval et sur des images sonores de Jean-Paul Beaujolais, mixage Yann Parentoen. Il faut avoir vu Bénarès en hiver, quand le soir tombe une vraie nuit d'été en novembre. La lune est déjà dans le ciel et l'eau se confondent. La grande courbe du Gange va se perdre dans une absence d'horizon, dans un couchant de jacinthe et de sable, sur lequel flotte une brume gris-bleu de la couleur des houseboats qui flottent entre le ciel et l'eau. Les pêcheurs, les pèlerins, les familles de touristes, un peuple tranquille se promène ou rêve. Un gosse règle une lampe à pétrole, une cloche sonne, l'air porte les voix. Ici, on peut mourir tranquille, on y a secrètement un avant-goût d'éternité. Et puis, le jour se lève et la barque qui vous emporte au fil du Gange en un long travelling tire peu à peu le rideau sur ce site inoubliable, ce front de fleuve, ses palais et ses marches, où la vie foisonnante reprend ses droits dès l'aube. Ce site, inutile de dire qu'il est immortalisé par la photographie, et encore ce matin, nous avons vu des... Pas des hordes, cette saison, il n'y a pas encore de hordes de touristes, mais beaucoup de touristes qui photographiaient. Et pourtant, je crois qu'on ne sait pas grand-chose de ce que représente la valeur symbolique de ce lieu, Bénarès. Pierre Amado, d'abord, le site même, c'est une courbe du Gange.
Bénarès est situé sur un méandre du Gange. Les gens de Bénarès vous disent que le Gange à Bénarès coule vers le nord. En fait, il y a le long du cours du Gange tellement de méandres qu'il y a sans doute des centaines d'endroits où le Gange coule vers le nord. Mais Bénarès a cette particularité d'être situé sur un méandre dont la partie concave est une falaise qui est le rebord d'un plateau structural de grès, ce qui fait que, à cet endroit, le Gange n'a pas changé de place. Or, tout le long du Gange, toutes les villes ont été soit détruites par des inondations terribles, soit abandonnées par le cours du Gange. Ce qui fait que c'est, sans aucun doute, la ville la plus ancienne construite le long du Gange. Alors on vous dit ici, c'est une ville qui est la ville la plus ancienne du monde. Oui, c'est vrai dans l'imagination des Indiens, c'est vrai selon le légendaire que Bénarès est la ville la plus ancienne du monde. Mais en réalité, c'est pour moi sans aucun doute la ville la plus ancienne construite sur le Gange, parce que c'est la seule qui n'a pas été détruite. Or, comme en Inde, le fait d'être ancien correspond à la sainteté, les personnes âgées sont plus respectées que les autres, et la ville la plus ancienne est évidemment la ville la plus sainte.
Or, cette ville a pourtant à faire face, et c'est vraiment le cas de le dire, à faire face à des crues énormes du Gange. Je dis faire face parce que la particularité de cette falaise et la particularité des constructions qu'on y voit, c'est qu'il y a toute une partie aveugle qui représente en fait la partie qui est par saison immergée complètement. L'Ornicor, vous voyez le Gange actuellement en novembre, à un étiage qui est à peu près...
Pas encore le plus bas. Le Gange va encore descendre d'à peu près 2 mètres, là. Peut-être un petit peu plus.
Or, nous voyons la trace sur les murailles en face d'une élévation de 10 ou 12 mètres.
À peu près, aux alentours d'une quinzaine de mètres, oui. Aucun gâte n'est visible en période de crue. Hein. On ne peut pas accéder au Gange véritablement en période de crue, c'est-à-dire du mois de juin au mois de novembre.
Et pourtant, Pierre, la ville demeure.
La ville demeure, mais les ravages sont extraordinaires et on n'a pas cessé de réparer les gâtes de Bénarès. Hein, depuis des temps très anciens et aujourd'hui encore, on dépense des sommes fabuleuses pour réparer ces gâtes et pour empêcher la ville, peut-on dire, de s'effondrer dans le Gange. D'ailleurs, regardez à Manikarnika, ce temple qui s'est effondré il y a quelques dizaines d'années.
En 48. Et,
comme d'autres pourraient s'effondrer. Or, il y a actuellement des études qui sont faites pour voir si on peut sauver les gâtes de Bénarès. Il y a des moments de l'existence d'une ville où il faut prendre des mesures draconiennes en se disant ou bien Bénarès demeure ce qu'il a toujours été, ou bien Bénarès va peu à peu être détruit par le flot du Gange. Il faut vous dire qu'au moment des crues, on ne peut pas remonter le Gange en bateau, en barque comme nous sommes en train de le faire en ce moment. Il faut s'accrocher aux gâtes, s'accrocher aux maisons, aux rochers, aux toits qui sont dans l'eau pour arriver à remonter. Le courant est extrêmement fort, très violent.
Est-ce que vous pouvez nous situer un petit peu les choses ? Là, nous sommes bien au large, on a vraiment le panorama de la ville devant les yeux. Ça représente d'ailleurs un front de combien de kilomètres ?
Aux alentours de 12 kilomètres, je pense.
12 kilomètres.
Oui.
Alors, rapidement, comme ça, tout de même, en spécifiant un peu quel est le caractère de chaque gâte, est-ce que vous pouvez nous dire...
Alors donc, le nom de Varanasi vient des deux rivières, Varuna et Assi. Hein. Donc on peut partir, mettons, d'Assigat, qui est le début de la ville de Kashi, qui est le nom sacré de la ville de Bénarès. Il y a donc trois noms, Kashi, Bénarès, qui est le nom musulman, et Varanasi, le nom hindou, pour arriver jusqu'au dernier ghat, Rajghat.
Alors ghat, ce sont en fait des escaliers et des passages qui permettent d'aller au fleuve depuis la ville.
Ghat, en vérité, ça veut dire colline.
Voilà.
En sanskrit et en hindi aujourd'hui, ghat, ça veut dire pente, et on descend au Gange par ces ghats, qui sont maintenant couverts de marches. Pour descendre plus commodément.
Il y en a combien en tout ?
Aux alentours de 40 ou 50, hein, je pense.
Et les plus célèbres ?
Les plus célèbres, naturellement, on commence par Dasashwamed, hein, le sacrifice des 10 chevaux.
C'est-à-dire ?
C'est Brahma, le dieu créateur,
oui.
Qui a lui-même fait 10 fois le sacrifice
du cheval,
qui était le sacrifice royal le plus sacré par excellence.
On sacrifie un cheval au fleuve ?
Oh non, c'est une chose infiniment plus compliquée que ça. C'est un sacrifice royal qui a été prévu très longtemps à l'avance, que peu de rois dans l'histoire de l'Inde ont pratiqué, et où on choisissait un cheval suivant des rites extrêmement précis. On lâchait le cheval dans la nature, dans la campagne, et partout où passait le cheval, ça devenait l'empire du roi qui avait fait le cheval, et le sacrifice lui-même durait plusieurs années suivant des rites extrêmement compliqués. Hein, c'est un sacrifice qui, évidemment, n'a pas été pratiqué ici 10 fois, et surtout pas par Brahma, mais c'est pour indiquer la sainteté du lieu. Et le point le plus important, en fait, qui est même le départ du pèlerinage de Bénarès, c'est Manikarnika. Alors, la légende raconte que c'est un endroit où Shiva et Parvati dansaient, faisaient ce qui arrive souvent chez les dieux, une espèce de concours ou de match, dirait-on aujourd'hui, de danse, et à un moment... Parvati a laissé tomber sa boucle d'oreille en dansant, et tout en dansant, Shiva l'a ramassée avec son pied et l'a remise à l'oreille. Alors Manikarnika, c'est le joyau d'oreille, et l'endroit où serait tombé ce joyau d'oreille est aujourd'hui un puits. Hein, en vérité, ayant même étudié, comme vous savez, les pèlerinages au Gange, j'ai remarqué que avant que le Gange devienne un fleuve sacré, il y avait tout de même, et comme partout dans l'Inde, des points sacrés, qui sont des points d'eau, et que le point d'eau le plus important de Bénarès était près du fleuve, un puits nommé Manikarnika. Et c'est de là que part le pèlerinage de Bénarès.
Ce matin, il est tôt. Nous voyons que certains ghats sont beaucoup plus occupés que d'autres. Alors ce sont probablement les plus célèbres aussi, après Manikarnika.
Manikarnika, c'est le ghat où on fait les crémations. Alors il est tristement célèbre, si on peut dire. Mais les autres ghats sont plus célèbres ou plus fréquentés. Ça dépend surtout de l'endroit où ils se trouvent et de la facilité d'accès et de ce qu'il y a derrière. Si ce sont des gens qui sont traditionnalistes et très pieux, ils descendent au ghat le plus proche. Et puis il y a des quartiers où, au contraire, par exemple, on est devant...
Regardez, là, on est dans le quartier musulman, là, et il n'y a pratiquement personne.
Évidemment, les gâtes ne sont pas fréquentées par les musulmans.
Tiens, un dauphin vient de nous montrer son dos, agréablement. Alors, ce qui est frappant aussi, c'est de voir que ce front de fleuve montre aussi bien des temples anciens, des palais anciens, que des immeubles modernes, que même un réservoir d'eau, un hôpital. Et tout ça se fond, peut-être grâce à la mousson, qui polie tout et qui humidifie tout. Quelle est l'origine des plus anciens palais et des plus anciens temples ?
Puisque Bénarès est considérée comme la ville la plus sacrée de l'Inde et comme la plus sacrée la plus ancienne, de tout temps, on a voulu habiter au bord du Gange à Bénarès, et tous les riches rajas de la région d'abord, puis tout le nord de l'Inde, ont voulu se faire construire des demeures pour être sûr non seulement de pouvoir venir à Bénarès, puisque tout hindou devrait dans sa vie venir au moins une fois à Bénarès, mais aussi de mourir à Bénarès. Vous savez que les lieux de pèlerinage se font de la publicité exactement comme les lieux touristiques. Et tous les tirtha, ça veut dire point d'eau. Point d'eau et point de passage également, c'est un guet.
Et tous les tirtha, disiez-vous ?
Tous les tirtha se font de la publicité. Cette publicité se fait par, non pas par voie d'affiche ou de radio, mais de bouche à oreille, par les pandas, les prêtres de pèlerinage, qui visitent leurs clients et qui visitent toute l'Inde en visitant leurs clients, et aussi par des petites brochures, par de ces livres de colportage, ça s'appelle des Mahatmya, à la gloire d'eux, ça veut dire, qui vantent les mérites que l'on acquiert en venant se baigner à tel lieu de pèlerinage. Alors se baigner à Bénarès ou mourir à Bénarès, c'est ne plus jamais être réincarné, c'est sortir du cycle des réincarnations, c'est-à-dire avoir la délivrance totale.
Quel âge a le plus ancien de ces palais ?
Je pense que ce qu'on voit, les plus anciens sont probablement des palais fondés au XVIIIe siècle. Vous savez que c'est au XVIIIe siècle que Aurangzeb a détruit pratiquement la ville. Vous voyez, la grande mosquée en face de laquelle nous sommes ici est une mosquée qui a été construite avec les pierres du grand temple de Shiva à Bénarès à l'époque. Et Bénarès a été entièrement ruiné par l'invasion d'Aurangzeb. Donc les palais ne sont pas antérieurs à la deuxième partie du XVIIIe siècle. Mais comme vous voyez aussi, il y a des choses toutes neuves, comme cet hôpital qui est flambant neuf, il est encore flambant neuf, comme cette station de pompage des égouts, comme des maisons qui sont effectivement beaucoup plus jeunes, qui sont pour beaucoup des dharamsala. Ce sont des auberges pour pèlerins qui viennent, ou encore beaucoup, beaucoup de ce qu'on pourrait appeler, si on était journaliste, des mouroirs. Ce sont des endroits où les gens qui ont choisi de venir mourir à Bénarès sont recueillis, s'installent, et très souvent gratuitement, attendent la mort devant le Gange. Et on les porte littéralement sur les bords du Gange au moment où on sent qu'ils vont passer. Mais ce qui est important, c'est de voir que aussi bien cette mosquée, que tous ces temples, que tous ces palais, que ces bâtiments modernes sont intégrés dans une tradition. La tradition de l'Inde est une tradition qui est vivante et qui a une capacité d'adaptation extraordinaire, ce qui permet de voir ce croissant de lune ouvert vers l'Est, ouvert vers l'Orient, que forment les Ghâts à Bénarès, de voir que c'est un ensemble tout à fait intégré à ce qu'est la tradition de l'Inde.
Mais au fait, quel âge a Bénarès ?
Au risque de décevoir beaucoup les Indiens, Bénarès a été fondée aux environs de 900-950 avant Jésus-Christ et pas avant. Ce n'était pas possible parce que la vallée du Gange n'était pas la vallée plantureuse riche qu'elle est aujourd'hui. Au moment où les Aryas sont arrivés dans cette vallée ou dans le nord de la vallée, c'est-à-dire vers la moitié du deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Et il a fallu vraiment attendre l'âge du fer pour défricher les forêts marécageuses qui envahissaient complètement cette région. Or, le fer a été inventé en 1500 avant Jésus-Christ par les Hittites et il n'est pas arrivé en Inde avant les environs de l'an 1000. Et c'est effectivement grâce au fer que les occupants ariens sont peu à peu arrivés à défricher une partie de ces forêts marécageuses et instaurer peu à peu une économie agricole au lieu d'une économie seulement pastorale. Et d'ailleurs, les fouilles que l'on a faites récemment à Rajghat, sur cet éperon rocheux où se trouve le dernier des Ghâts où est appuyé le pont qui traverse le Gange à Bénarès, eh bien, on a découvert des traces d'objets ferreux que l'on a pu dater au carbone 14, justement des environs de l'an 900 avant Jésus-Christ. Thank you.
Le Gange est le fleuve de l'Inde, aimé de son peuple, autour duquel s'entrelacent ses souvenirs collectifs, ses espoirs et ses craintes, ses chants de triomphe, ses victoires et ses défaites. Le Gange a été un symbole de la culture et de la civilisation indienne à travers les siècles, toujours changeant, toujours s'écoulant et néanmoins toujours le même. Le Gange me rappelle les pics couverts de neige et les profondes vallées des Himalayas que j'ai tant aimées, ainsi que les riches et vastes plaines qui ont été le théâtre de ma vie et de mon travail. Souriant et dansant dans le soleil du matin, sombre, triste et plein de mystère lorsque tombe le soir, un ruban étroit, lent et plein de grâce en hiver, une masse rugissante pendant la mousson, presque aussi large que la mer, avec quelque chose de son pouvoir destructeur, le Gange a été pour moi un symbole et un souvenir du passé de l'Inde, se précipitant dans le présent et s'écoulant dans le vaste océan de l'avenir. Je suis fier du grand héritage qui a été et demeure le nôtre. J'ai conscience aussi du fait que moi-même, comme nous tous, suis un maillon de la chaîne ininterrompue qui remonte jusqu'à l'aube de l'histoire dans le passé insondable de l'Inde. Cette chaîne, je refuse de la briser car je la vénère. J'y cherche mon inspiration. Pour témoigner de ce désir et pour rendre un dernier hommage à l'héritage culturel de l'Inde, j'exprime cette volonté qu'une poignée de mes cendres soit jetée dans le Gange à Allahabad pour être emportée vers le vaste océan qui baigne les rivages de l'Inde. Testament de Nehru, 1964.
Pourquoi Allahabad, Tiramadu ?
Parce que Nehru était né à Allahabad, la famille de Nehru était à Allahabad depuis plusieurs générations, et c'est un lieu qu'il aimait particulièrement, mais il est évident qu'il aurait pu aussi bien dire à Benares, mais c'était Nehru voulait surtout montrer son attachement à une tradition familiale, en fait, et familiale et toute indienne. S'il avait dit Benares, il aurait marqué probablement une préférence pour une tradition religieuse à laquelle il ne voulait pas s'attacher ou paraître attaché.
Alors on donnait tout à l'heure les noms de Benares, dont celui de Kashi.
Mais Kashi, ça veut dire aussi en sanskrit, c'est le nom sanskrit, la resplendissante, la ville lumière. Kashi, c'est aussi, comme elle illumine, c'est la ville de la connaissance. Le feu de la connaissance brûle tout ce qui n'est pas la réalité, tout ce qui est apparence, tout ce qui est illusion. Le feu brûle toute impureté. Et nous disions Benares d'eau et de feu. Benares sans eau, ce n'est pas Benares. L'eau, c'est l'élément primordial. C'est l'élément qui n'a pas de forme et qui peut prendre toutes les formes. C'est l'élément qui purifie parce que il dissout toutes les formes, c'est-à-dire aussi toutes les apparences. Benares d'eau et de feu. Voyez la nuit, les bûchers de crémation qui se reflètent sur l'eau du Gange. Le corps, en somme tout ce qui n'est qu'illusion, se transforme en lumière et monte en fumée vers le ciel, cependant que le reflet du feu s'unit à l'eau du Gange qui coule comme l'éternité.
Alors précisément ce Gange, nous sommes conviés à le saluer à travers une Ganga Sabha, une liturgie domestique dans une grande pièce très haute de plafond, aux murs éclatants de lumière, aux fenêtres ouvertes sur la rue. La rue est partout omniprésente, même à Benares, en arrière du fleuve. Il y a là une trentaine d'hommes qui sont assis en rond sur un tapis devant une large estrade surmontée d'une effigie de la déesse Lakshmi, déesse de la prospérité, mais aussi d'une statuette de Ganga dans une petite niche. Ganga, c'est-à-dire la déesse Gange, car si le fleuve lui-même est puissamment mâle, l'eau est liée à la fertilité, donc à la femme.
C'est-à-dire en Inde, tous les fleuves sont des noms féminins, divinités féminines, et Ganga particulièrement. Ganga est la mer de l'univers, la mer du monde.
Alors sur le tapis et sur l'estrade devant nous, des plateaux de fruits, des pommes, des bananes, des noix de coco, du riz, du lait, de l'encens qui fume, des fleurs de Yedin qu'on se passe de main en main et dont on jette des poignées de pétales en offrande aux divinités. Le prêtre, on l'entend, récite les mantras, trace des signes à la poudre rouge sur un plateau de cuivre. Son fils, 4 à 5 ans, va et vient, court aux fenêtres, rit fort, interpelle son père, « Papaji », et le père répond « Tais-toi ». C'est à la fois très familial et très recueilli. Et puis, voici l'offrande du feu à Rati. La plupart des assistants vont incliner devant la déesse. Le candélabre a plusieurs mèches.
Et voyez-vous, cette Arati, cette offrande du feu, offrande de la lumière, c'est une partie de ce culte qui est en fait l'offrande des cinq éléments à la divinité. Et bon, en simplifiant un petit peu, d'abord, vous venez de l'indiquer d'une autre manière, le prêtre trace sur l'autel, devant les représentations de la divinité, ou la représentation des divinités, un signe qu'on appelle un yantra, un signe qui a une symbolique cosmique et qui signifie, dans son esprit, il l'accompagne d'ailleurs d'un mantra, d'une formule qu'il précise, ce n'est pas devant la forme que je me prosterne et que je célèbre le culte, c'est devant le cosmos que représente cette forme. C'est donc pas du tout une idolâtrie, puisque le prêtre précise bien que ce n'est pas les idoles qu'il adore, mais la divinité symbolisée par les idoles. Et d'autre part, il fait aux divinités l'offrande des cinq éléments de la tradition de l'Inde. Nous avons, nous, dans la tradition, quatre éléments, la terre, l'air, l'eau, le feu. En Inde, il y en a un cinquième qui s'appelle Akasha, qui est à la fois l'espace, le temps et la cause. Ce sans quoi on ne peut rien considérer, rien prendre. Ce qui unit les quatre autres éléments pour faire la réalité.
Alors pour saisir une partie de cette réalité, pour saisir une partie du mystère de Bénarès, eh bien il faut avant toute chose passer par le Gange. Le Gange, partout présent, même quand on ne le voit pas, je ne connais vraiment rien de plus évocateur que d'entendre son bruissement dans une nuit peuplée d'insectes, et je dis bien son bruissement, ce bruissement qu'on prétend descendu de la Voie lactée, ce fleuve puissant est capable de se contenir presque dans un murmure.
Un instituteur de Bénarès, à qui je demandais de me parler du Gange, mais vous savez, pour nos enfants ici, le Gange n'est pas un fleuve. Je me rappelle avoir demandé un jour à mes petits élèves, citez-moi le nom de saint fleuve de l'Inde. Et bien, ils m'ont cité le fleuve, ils n'ont pas cité le Gange. Alors, je leur ai dit, mais enfin, et Ganga, vous l'avez sous les yeux. Et l'un d'eux m'a dit, Ganga, c'est aussi un fleuve. Pour eux, c'est pas un fleuve, Ganga, c'est Gangamai, Gangamata, c'est la mer, c'est l'éternité présente devant soi.
C'est dire que ce fleuve est légendaire, ou plutôt qu'il a une légende.
D'abord, c'est un fleuve qui n'a une existence que terrestre en tant que fleuve. Le Gange dans le ciel, c'est la Voie lactée. C'est une légende qui est bien connue, vous la connaissez sûrement. Il était une fois, dans le sud de l'Inde, au bord de l'océan, des ascètes qui méditaient pour atteindre cette concentration qui fait que l'esprit éclate, si je peux dire, que les conditionnements de la pensée disparaissent et qu'on atteint enfin à cette connaissance globale qui est délivrance de toutes les réincarnations. Et chaque fois qu'ils pensaient qu'ils allaient atteindre ce moment de concentration fantastique où tout éclate, eh bien, il y avait des démons qui sortaient de l'océan et qui venaient les en empêcher en leur tordant les oreilles ou chatouillant les pieds. Vous savez que les yogis, à certains moments de leur ascèse, finissent par avoir quelquefois des pouvoirs que nous appelons surnaturels, et l'un de ces ascètes avait acquis le pouvoir d'avaler n'importe quoi. Alors l'un d'eux dit, mais tu n'as qu'à avaler l'océan.
Et nous n'aurons plus de démons. Partiront.
Exactement. Et ainsi fut fait. Seulement voilà, quand il n'y avait plus d'océan, il n'y avait plus de nuages, il n'y avait plus de pluie, il n'y avait plus d'eau sur la terre, et la vie commençait à s'arrêter. Alors les ascètes ont décidé de méditer pour demander à Brahma, le dieu créateur, d'envoyer sur la terre la Ganga céleste pour redonner la vie, la pureté à la terre. Et pendant des milliers d'années, les ascètes ont essayé d'atteindre Brahma sans y arriver, et c'est l'un d'eux qui s'appelait le roi Bhagirath qui a fini par pouvoir le joindre, et Brahma, touché par tant de persévérance, d'ardeur dans l'ascèse, de patience, a accordé à Bhagirath le vœu dont il demandait la réalisation, la descente de Ganga sur la terre. Seulement, a-t-il dit, la Ganga vit au ciel parmi nous, et quand on voudra la faire descendre sur la terre, elle ne voudra pas, elle sera en colère, et en arrivant, elle détruira tout. Et d'ailleurs, rien que le poids de sa chute risquera de tout détruire sur la terre. Alors comment faire? Je crois qu'il faut aller demander à Shiva, qui est le plus fort de tous les dieux, qu'il t'aide. Et le bon roi Bhagirath a médité encore 1000 ans pour atteindre enfin Shiva, qui a accepté. Pour calmer
la colère de la Ganga, de la recevoir dans les boucles de sa chevelure d'Asset, de la recevoir comme ça pendant plusieurs centaines d'années, à tourner, retourner, virevolter, pour qu'elle se calme et pour offrir ensuite la Ganga à la terre, pour lui redonner la vie et la pureté. Et c'est pourquoi en Inde, le Gange, la Ganga, c'est le ciel sur la terre. Et prendre un bain dans le Gange, c'est vraiment prendre un bain dans le ciel, c'est se dissoudre entièrement, se régénérer.
Et c'est pourquoi en Inde, sous un ciel pareil, dans une nuit qui bruit, et où on entend précisément le Gange, tout ce que vous dites là est comme une réalité.
छाया विथि तले शो करो स्नान नवो धारा जले एशो नीप बने छाया विथि तले दावा कुलियो घन कालो केश पर देह घेरी मेघ नील बेश दावाकुले घन कालो केश पर देह घेरी मेघ नील बेश काजल नयने ज्योति माला गले एशोनीप बने छाया विथि तले एशो करो स्नान नव धारा जले एशोनीप बने.
Notre mère Ganga, qui partage avec la fille de l'Himalaya l'amour de Shiva, tu te déroules comme un collier de perles sur le vêtement de la terre. Tu es la hampe de la bannière qui relie le tangible à l'intangible. Ô Bhagirathi, je te prie, que mon corps ne périsse pas avant d'avoir vécu sur tes rives, avant d'avoir bu de ton eau et dansé sur tes vagues, et répété ton nom en jetant sur toi son dernier regard. Pas même un taureau ou un oiseau ou un cheval, ni un serpent, ni un éléphant ne souffrent les peines de la renaissance et de la mort s'ils vivent à Kashi, sur tes saintes rives. Plus privilégiés sont-ils qu'un souverain régnant loin de ton cours et vanté par les chasse-mouches des courtisanes qui le bercent au tintement rythmé de leurs bracelets. Suprême dame Bhagirathi, qui coule à travers les espaces célestes, atmosphériques et terrestres, quand viendra pour moi le temps que m'éventent les femmes divines, balançant entre leurs doigts déliés les soyeuses queues de yak? Quand connaîtrai-je le bonheur de voir mon corps becqueté par les corbeaux, emporté par tes tourbillons, rejeté sur tes rives, tiré à terre par les chacals, déchiqueté par les chiens et les vautours, et repris, ballotté çà et là par tes eaux? Shankaracharya, 8e siècle après Jésus-Christ, traduit par Usha Shastri et Nicole Menant.
Le rameur qui nous emmène sur le Gange remonte à présent le courant et il transpire à grosses gouttes. Les blanchisseurs frappent le linge sur les pierres. Des saris sèchent sur le sable, formant de grandes toiles abstraites de couleurs tendres, cernées par quelques traînées de teinture, violette ou pourpre. Des enfants commencent à faire monter à hauteur des terrasses, à hauteur des faucons, des cerfs-volants, qui font eux aussi des taches en miniature sur le ciel. Les ânes, les vaches, les buffles voisinent paisiblement avec une foule de gens, tous en mouvement, tous occupés. Mais c'est le bain d'abord qui les amène ici.
Mais d'abord, on se lave en Inde. Hein, se laver, c'est un des devoirs primordiaux au moment où on commence à se lever. l'Inde vit de façon très rituelle, et depuis le moment où on s'éveille le matin jusqu'au moment où on s'endort le soir, on accomplit un très grand nombre de ces rites qui permettent, suivant la tradition, de s'unir à l'univers.
Alors justement, je vous interromps pour montrer cet homme qui joint les mains, les yeux fermés, et qui prie face au fleuve, qui s'incline. C'est quel moment de la prière, cela ?
Là, c'est une salutation au soleil, et en même temps, il va prendre de l'eau entre ses mains, qui va faire couler, suivant les doigts entre lesquels il coule, sur la position par l'eau coule. C'est une offrande au soleil, aux ancêtres, aux parents, aux gourous.
Donc on peut voir ici, il faut en effet des gens qui se lavent et qui se lavent bien et fort et qui se savonnent. Et puis cet homme...
Eh bien, ils se savonnent et ils ont tort, si je puis dire. Ils ont raison de se savonner. Mais suivant le rite traditionnel, on ne doit pas se laver dans le Gange, en fait, avec du savon. Les brahmanes très traditionnalistes utilisent un savon qui est une sorte d'argile. Et en tout cas, tous les anciens traités disent qu'il faut se laver avant d'aller au Gange et ensuite prendre son bain rituel dans le Gange. Le bain dans le Gange peut être aussi, comme vous le voyez, un bain sportif. Vous voyez ces jeunes qui nagent dans le Gange.
Oui,
mais le bain rituel est un bain de purification. Cela implique une régénération. Lorsque on se baigne dans le Gange, on reste debout, sur la rive d'abord, et en tout cas toujours, il y a un rite qui consiste devant le Gange à joindre les mains et à prononcer un mantra, une formule traditionnelle, une formule sacrée qui permet à celui qui la prononce d'être en harmonie avec le moment présent et le lieu présent. C'est un peu d'être sur la longueur d'onde, comme on dirait presque aujourd'hui.
Alors autre usage du fleuve, là, alors vraiment, c'est tout se passe selon une série. Là, des femmes portent sur leur tête, comme il se doit, dans des paniers de la terre qu'elles jettent.
Nous sommes en période de décrue du Gange, et pendant les crues, comme le Gange charrie beaucoup de sédiments, au moment de la décrue, il laisse des centaines de tonnes de sédiments sur les bords des Ghâts. Et pour pouvoir utiliser de nouveau les marches plus basses des Ghâts, on enlève cette boue et on la jette dans le Gange, évidemment.
Ici, autre scène, une barque passe avec une famille, et puis derrière, les blanchisseurs.
Alors la barque qui passe avec la famille, ce sont des pèlerins qui accomplissent le pèlerinage aux différents points de la rive du Gange où il faut s'arrêter pour faire des offrandes. Et ici, c'est un ghat où les blanchisseurs lavent leur linge. Comme vous voyez à l'indienne, on n'est non pas debout à genoux sur la rive, mais on est debout dans l'eau et on frappe le linge sur une pierre qui est à l'extérieur de l'eau, ce qui explique d'ailleurs que nous n'ayons pas de boutons en nos chemises quand elles sont lavées en Inde, mais que dans les vêtements indiens, traditionnellement, il n'y a pas de boutons, ni de couture, pour d'autres raisons, bien sûr. Et j'oserais presque dire que tout le monde sait à Bénarès que le Gange lave plus blanc. C'est-à-dire que du moment que le Gange purifie, il lave. Et il y a une confusion perpétuelle entre la pureté rituelle et la pureté bactériologique, entre la propreté rituelle et la propreté physique.
Alors nous revenons au geste rituel, précisément. Un des moments principaux de l'offrande, de la prière, c'est avec un petit vase de cuivre, les ablutions d'eau.
Ça, c'est pour les offrandes. C'est l'eau que l'on offre justement au soleil, qu'on prend un petit pot de cuivre et que l'on reverse au Gange en prononçant les mantras, les formules appropriées. Mais le bain lui-même consiste, étant debout dans l'eau, à plier les genoux jusqu'à ce que la tête soit recouverte par l'eau. Et on le fait trois fois, ou autant de fois trois fois, qu'on prend son bain pour soi-même ou pour ceux pour qui on veut le prendre, c'est-à-dire pour son épouse, pour ses enfants, pour son père, pour sa mère. Et trois fois, c'est un vieux sadhu, un vieil ascète, qui était là sur les bords du Gange, justement à Assigat, il y a quelques années, quand j'étudiais ce bain dans le Gange, et qui me regardait. Et à un moment, je me suis approché de lui, il a compris que je voulais lui poser une question, il m'a répondu avant que je lui pose la question. Et il m'a dit, vous voyez, il se plonge trois fois. Une fois, il prononce le mantra qui leur permet d'abandonner le corps physique. Une deuxième fois, on se plonge en prononçant le mantra qui permet d'abandonner le corps psychique. Et une troisième fois, on se plonge et on abandonne le corps causal. Et quand on ressort du Gange, tout est dissous. Alors il ne s'agit pas, comme on le dit quelquefois, de dissoudre les péchés, ça ne veut rien dire. En Inde, le terme de péché ne correspond pas à la réalité indienne. Mais on peut dire qu'on dissout l'histoire, on dissout tout ce qui est historique, tout ce qui est temporel dans le Gange, et quand on ressort du Gange, de ce fait, on est régénéré.
Et donc prêt à aller au temple
Exactement. On n'est non pas régénéré, c'est-à-dire qu'on n'est pas purifié pour l'éternité. Je me rappelle que Ramakrishna disait toujours à ses disciples qui allaient prendre la main dans le Gange, laissez tous vos papas, toutes vos impuretés sur le bord de la rive en enlevant vos vêtements. Prenez votre bain, mais n'oubliez pas que dès que vous remettrez vos vêtements, vous remettez aussi toutes vos impuretés avec vous. Le propre du bain dans le Gange, c'est qu'on est tellement purifié, puisqu'on a été dissous, toute l'histoire a été dissoute, toute la cause a été dissoute, on est régénéré et on est dans un état tel, dans un état de pureté, que on peut, si l'on regarde la divinité, la représentation de la divinité, la voir. On est, là encore, je dirais presque sur la même longueur d'onde.
On a oublié, en Europe, que la tradition était quelque chose de vivant. Et ici, on le sent très très bien, on le sent dans une joie de vivre, dans des petits faits quotidiens tout à fait significatifs. C'est sûr que c'est toujours très beau de... Pour prendre l'exemple des crémations, de voir des enfants jouer au cerf-volant dans les bûchers. Voir le bain des buffles, ou voir de temps en temps même le bain d'un éléphant, ou voir le brahman s'isoler alors qu'il est entouré de centaines de personnes, de haut-parleurs qui diffusent de la musique de film, de gosses en train de jouer, de s'ébattre dans l'eau, et le brahman qui a oublié complètement tout le monde extérieur et qui est en train de faire sa puja, faire ses prières ou sa méditation sur le bord du Gange.
Sahasra shirsha purushah sahasrakshah sahasrapat sabhumin vishvato vritva ati atishthat dashangulam purusham evedam sarvam yadbhutam yachya vabhyam utamritatvasyeshano yadanne nati rohati. Quand j'étais à Shantiniketan, nous avions un maître, Kshkiti Mohan Sen. C'est lui, si vous voulez, qui m'a donné le goût de sanskrit, c'est-à-dire le goût de prononcer bien le sanskrit, ce qui est essentiel. Comme enfin, j'appartiens à une caste brahman et aussi à une famille extrêmement orthodoxe, extrêmement religieuse, très hindoue. Évidemment, quand on est brahman, on est deux fois né, on a une initiation. Moi, j'ai eu mon initiation aussi. Cette initiation, ça se passe quand on a, vous savez, 12 ans, 13 ans. Enfin, il y a une cérémonie et après cette cérémonie-là, vous devenez brahman. Alors là, j'ai appris beaucoup d'hymnes que je ne comprenais pas. Et je devais les réciter étant brahman, etc. Je devais faire mes prières matinales tous les jours, enfin, en récitant des mantras que je ne comprenais pas, et on récitait n'importe comment, vous voyez. Et alors, c'est à Shantiniketan que j'ai compris comment il fallait réciter quelques de ces mantras et quel était le sens. C'est absolument sensationnel. Quand j'ai compris un peu de ça, ça a changé ma vie. Ça m'a complètement bouleversé. Ça, c'est la création de la terre, hein, de l'univers plutôt, pas de la terre.
En quoi est-ce que ça a changé votre vie?
Parce que ce sens de l'immensité de la vie et d'une beauté, vous savez, et d'une poésie inimaginable. La poésie de Rig Veda, c'est vraiment tout à fait remarquable. Par les mots qu'on choisit pour décrire un paysage, et surtout décrire le paysage mental, décrire les sentiments qui sont nés en vous. Et alors ce sentiment, surtout de mystère, vous voyez. Le mystère, ça c'est le Rig Veda.
Je reviens un petit peu en arrière sur la cérémonie d'initiation d'un petit garçon. Vous pourriez la raconter un petit peu plus précisément?
Ah voilà, il y a une cérémonie qui dure toute une journée avec deux prêtres, c'est-à-dire un qui va vous donner le mantra. Le mantra, c'est-à-dire le mantra principal, c'est Gayatri mantra. Om Bhur Bhuvasvaha Tat Savitur Varenyang Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Naha Prachodayat. Ça c'est le Gayatri mantra. On vous la donne absolument à la fin. quand vous avez appris le Gayatri Mantra, vous êtes un Brahman.
Et qu'est-ce qui s'est passé encore ce jour-là?
On m'a remis le cordon de Brahman. Il y a principalement trois fils blancs et ça vous portait de gauche à droite, c'est-à-dire de l'épaule gauche à travers le buste, etc. Et ce cordon vous attache au Père, enfin, suprême qui a créé ce monde, Brahma.
Vous parlez de trois fils.
Oui. Pourquoi ces trois fils, ça, je ne peux pas vous dire, je ne sais pas. Mais je crois que c'est les trinités de l'hindouisme, c'est-à-dire le Shiva, le Vishnu et le Brahma. Après, on vous coupe les cheveux, vous êtes complètement chauve, etc. Et on vous renferme dans une chambre où, enfin, vous ne pouvez pas voir de lumière, surtout le soleil. Alors, il faut rester comme ça pendant 3 jours. Et il faut se nourrir des choses que vous pouvez avoir en mendiant. Il y a des personnes qui viennent vous voir, je ne sais pas, vos oncles, vos frères, vos parents, et alors vous dites « Bhavan Vekshang Dehisi », c'est un masculin, vous dites « Vous me donnez de almes, au monde, vous me donnez d'aumon. » Et si c'est une femme, vous dites « Bhavati Vekshang Dehi », et on vous donne n'importe quoi, on vous donne du riz, etc. Et avec ça, vous vous nourrissez pour 3 jours.
Et puis après ces 3 jours, qu'est-ce qui se passe?
Vous sortez de cette chambre et vous menez encore une vie normale. Seulement, il faut que vous commenciez à faire vos prières matinales et aussi le soir, tous les jours. Et pour un an au moins, quand vous mangez, vous ne pouvez pas parler. Il faut être absolument silencieux en mangeant, etc. Et évidemment, vous ne pouvez pas acheter n'importe quoi, vous savez, de quelle boutique et manger. C'est plus possible parce que vous êtes un Brahman. Vous pouvez vous nourrir des choses qu'un Brahman ou bien, enfin, quelqu'un de la caste Brahman a préparé pour vous. Autrement, vous ne pouvez pas vous nourrir. Quelquefois, vous êtes étonné de voir le respect que vous suscitez des hommes, surtout des hommes de basse caste, par exemple, qui viennent vous toucher, vous voyez, les pieds, etc. Alors, ça vous choque un petit peu et vous êtes étonné. Quelquefois, vous avez l'impression que vous êtes vraiment un être supérieur, qui est une chose tout à fait fausse.
Et vous, à l'intérieur de vous, finalement, comment est-ce que cette foi se vit actuellement? C'est une question très personnelle.
Je vous dis franchement que peut-être j'ai dépassé complètement cette étape-là. Parce que nos grands textes nous enseignent que tous les hommes sont des parties, enfin, divines, absolument. La vérité vit parmi nous tous et nous sommes tous absolument la même chose au fond.
Est-ce que vous pratiquez, vous, Loknath?
Non. Pas maintenant, enfin, parce que, enfin, j'ai perdu la foi.
Mais alors, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Vous dites j'ai perdu la foi et en même temps, ce que vous dites laisse entendre tout de même qu'il y a une vision de l'univers qui est pour vous est divine.
Tout à fait vrai. Tout à fait vrai. Et c'est beaucoup plus que, enfin, ce que j'avais auparavant. Quand je vous dis que j'ai perdu la foi, c'est-à-dire j'ai perdu, si vous voulez, la foi au rite absolument nécessaire. Je ne les pratique plus, mais sans les pratiquer, je crois que je peux comprendre beaucoup plus de choses maintenant. Et quelquefois, quand j'ai envie, je récite moi-même, par exemple, ou bien je chante des mantras, etc., et qui me remplit complètement.
Ainsi, le Gange pour les Indiens, c'est le ciel sur la terre. Mais les Indiens sont tellement nombreux que l'équation sacrée s'inverse parfois et se trouble. La terre envahit le Gange, les hommes polluent le fleuve. Bénarès, c'est aussi cette réalité. Le chercheur qui retrouve la ville à intervalles réguliers depuis 30 ans, comment la voit-il évoluer, Pierre Amado?
Je suis frappé de voir effectivement à Bénarès d'abord qu'il y a beaucoup moins d'eau. Nous sommes au début de la saison sèche, mais le Gange est encore assez gros, qu'il y a beaucoup moins d'eau qu'il y a 10, 15 ou 20 ans. Et cela ne vient pas du fait que la mousson a été mauvaise. La mousson, au contraire, cette année, était excellente. Mais ça vient du fait qu'on prend de plus en plus d'eau pour l'irrigation. Alors effectivement, prendre de l'eau pour l'irrigation, c'est une très bonne chose, puisque la production agricole indienne est telle que l'Inde n'importe plus de graines alimentaires pour la nourriture de son pays, mais ça implique aussi qu'il n'y a plus d'eau du Gange. Or, chacun sait que l'eau d'un fleuve qui roule au soleil en 500 mètres devient une eau bactériologiquement pure. Avec le Gange, ça n'est pas possible. Non pas que le soleil manque, nous voyons bien qu'il y a du soleil sur le Gange toute la journée et pratiquement toute l'année, mais le problème est que l'eau ne coule plus assez vite pour être effectivement charriée rapidement et se purifier par le soleil.
Et ce que vous dites là est valable pour tout le cours.
C'est pire encore d'une certaine manière. D'abord, il n'y a aucune station d'épuration sur aucune des villes qui jette ses égouts dans le Gange. Mais ensuite et surtout, il y a des quantités d'industries qui se sont développées en Inde depuis l'indépendance, et même à Hardwar, hein, dans la région d'Hardwar, c'est-à-dire à l'endroit où le Gange sort de la montagne, eh bien, il y a des usines importantes, dont une usine de produits pharmaceutiques et biologiques, et une usine de machines-outils qui est sans doute la plus importante de l'Inde. Or, ces usines jettent des effluents dans le Gange, effluents qui ne sont absolument pas purifiés auparavant.
Alors, sans reprendre la boutade de Mark Twain qui disait que, je crois, il n'y a pas de microbes dans le Gange parce qu'il y en a tellement qui se mangent et qu'ils en meurent, quel est l'état actuel de pollution microbienne?
Elle est très importante. Du point de vue bactériologique, je ne pense pas qu'elle soit aussi importante qu'on le dit souvent, en ce sens que les microbes et les virus qui provoquent des maladies chez l'homme sont des agents pathogènes qui ont leur écologie, je peux dire, leur milieu dans lequel ils se trouvent à l'aise et ils peuvent vivre, dans le corps humain ou dans le corps d'animaux. Et en dehors des corps d'animaux, la plupart de ces agents pathogènes ne vivent plus. Il y a très peu qui continuent à vivre dans le Gange. Il n'empêche que c'est tout de même un élément de contagion et de diffusion de beaucoup de maladies, il n'y a aucun doute, étant donné que l'eau ne roule pas, ne se purifie pas.
Et d'autant plus que c'est une eau alors qui ne sert pas simplement à l'irrigation, qui ne sert pas simplement au bain, mais qui est une eau qu'on boit, et qu'on boit à usage quasi sacré.
Mais c'est ce que disait ce grand prêtre avec qui nous avons parlé, lui qui est un homme de science et de technique, et qui prend son bain tous les matins rituellement et qui avale une gorgée ou quelques gouttes du Gange. Quand il accomplit les rites, il n'est pas conscient de ce que je vais dire, mais après il se dit, bien, j'ai avalé quand même une gorgée d'eau qui est bactériologiquement impure et qui risque de nous donner des maladies, ce qui est quand même très grave. Or, ça a toujours été comme ça, il faut bien le dire, mais c'est sans doute de plus en plus maintenant puisque l'eau ne roule plus.
Et vous, Lannicor, qui voyez le Gange alors depuis moins longtemps, depuis 5 ans, mais qui le voyez bien à Bénarès même, comment voyez-vous cette évolution?
Le plus important, effectivement, c'est de voir qu'il y a deux pollutions peut-être un petit peu différentes. Une pollution générale au Gange, depuis pratiquement sa source jusqu'à Calcutta, et une autre pollution qui est là peut-être plus importante et qu'il faudrait cerner beaucoup plus vite et avoir des moyens d'action beaucoup plus rapides et des moyens d'éducation des gens beaucoup plus rapides, dans la mesure où, effectivement, ça amène énormément de maladies, énormément de problèmes, et qui finalement coûte très cher aussi à l'Inde. Et pour les gens pauvres en particulier, aller chez un médecin, ça coûte très très cher. Des milliers et des milliers de personnes ont entre autres des maladies de peau vraiment très difficiles à faire partir, des sortes de champignons ou de bactéries qui s'installent sur... ou à l'estomac par exemple aussi.
Aux intestins.
Des intestins. Et donc je pense que c'est plutôt au niveau des villes, et c'est pour ça que je prends la ville de Bénarès, il y a déjà en 3 ans des points positifs quand même. Par exemple, au niveau de l'éducation, il est maintenant très rare de voir des gens venir faire leurs besoins tout simplement sur le long du Gange. Il y a eu énormément de propagande qui a été faite par les journaux à partir du 104 Motion Foundation.
Où vont-ils C'est un mystère.
Où vont-ils C'est un mystère. Il est certain que de toute façon, ça y
retourne au Gange.
Ça retourne au Gange. Ce qu'il y a, c'est quand même, c'est donc ces 3 stations de pompage qui remettent plus loin pour l'instant. Il y a donc un programme qui va être fait pour des stations vraiment d'épuration dans les 2 années à venir ou 3 années à venir. Espérons-le. Mais pour l'instant, effectivement, le plus important, c'est d'essayer et d'éduquer les gens et aussi de faire une action très directe. En fait, quand on est en Inde, je pense, comme le disait Manji, qu'il faut voir le côté spécifiquement indien. Donner beaucoup d'argent, par exemple, pour essayer de faire une œuvre pratique, on ne peut pas utiliser les mêmes techniques qu'en France, pour différentes raisons, non seulement pour des questions de climat, des questions de maintenance des différents appareils, mais aussi pour des questions d'administration et de lourdeur. Il faut absolument essayer d'aller plus vite, et donc pour ça, le faire par l'intermédiaire d'une éducation, et que ce soit les gens eux-mêmes qui, à leur propre niveau, prennent conscience des problèmes des eaux du Gange.
Tout ce qui s'est dit là, Pierre Amado, c'est la preuve de l'importance du Gange.
Sûrement, c'est-à-dire que le Gange a une existence non pas seulement en Inde, il a une existence, je dirais, dans notre passé ancestral. Tout le monde en France connaît le Gange. C'est que le Gange est un fleuve sacré, ou le considère comme un fleuve sacré, ou c'est qu'il est considéré comme un fleuve sacré. Je dirais parce que le Gange appartient à un patrimoine de culture mondiale.
Au même titre que les pyramides.
Par exemple. Et cette chose assez étonnante que le Premier ministre de l'Inde, une de ses premières déclarations, a été justement qu'il voulait travailler à la dépollution du Gange. C'est effectivement tout à fait significatif. Rajiv Gandhi lui-même n'est pas du tout un homme religieux comme le grand prêtre que nous avons rencontré. Rajiv Gandhi n'était même pas un homme politique, mais c'est un homme qui connaît bien son pays tout de même et qui sait très bien que le fait de s'intéresser au Gange et de dire qu'il faut absolument que le Gange garde son caractère sacré sans être une nuisance, comme on dit aujourd'hui, pour le public, c'est une manière de montrer qu'il est vraiment indien. Et son grand-père, le grand Nehru, qui était lui anti-religieux, il disait anti-superstitieux, en plus considérant que toute religion était superstition, eh bien vous vous rappelez cet admirable testament de Nehru. Nehru, lui l'agnostique, qui a écrit quelques mois sans doute avant sa mort les pages les plus magnifiques qu'on ait jamais écrites, non seulement sur le Gange, mais sur la signification de la tradition en Inde.
Le grand prêtre dont parlait Pierre Amado, c'est le pandit Virbada Mishra, autrement dit Mahanji, grand prêtre du temple d'Aneman. Il nous a reçus dans sa maison, une maison qui domine le Gange, devant les fenêtres grillagées à cause des voleurs et à cause des singes, passe parfois une voile rapiécée, ocre ou grise, et sur la vaste estrade recouverte d'un drap blanc qui occupe toute la pièce, des traversins et des coussins accueille les reins et les fesses des visiteurs respectueux. Manji est un homme distingué, à l'air apparemment très doux et très bon. Son père est mort quand il avait 14 ans, il est devenu grand prêtre. Et parallèlement, il a commencé des études de sciences pour devenir en 61 professeur d'hydraulique et d'irrigation à l'université de Benares. Mais Lanny Kaur le connaît encore mieux.
J'ai connu en fait Manji il y a 5 ans, depuis que j'ai commencé à étudier la musique avec Jyotin Bhattacharya à Benares. Manji a fondé une association qui s'appelle Sankad Motion, qui avait pour but principal et la dépollution du Gange et aussi une action écologique auprès du public.
Quelle est la chance d'une action comme celle-là de formation d'un public qui, on le voit bien, a de telles habitudes, une telle tradition que ça ne doit pas être tout à fait facile de rééduquer, voilà. En particulier dans le domaine du bruit.
Il y a une chose très importante à considérer, c'est que lorsque l'on s'attaque à un problème en Inde, il faut absolument savoir que c'est spécifiquement indien. À savoir que le Gange, c'est la mer, c'est Ma Ganga, c'est donc quelqu'un, une personne que l'on doit respecter. Et donc il est hors de question de faire quelque action, quelle qu'elle soit, sans que le public sentent aussi le côté religieux et le côté, l'approche religieuse de cette manifestation. C'est pourquoi je pense que Mahanji a eu une bonne approche, dans la mesure où c'est un brahman très orthodoxe, et il a très bien compris qu'on ne pouvait pas en même temps avoir du respect pour, j'allais dire pour quelqu'un, je parle toujours de quelqu'un en disant Ma Ganga, avoir du respect pour quelqu'un et en même temps l'agresser de sous toutes les formes possibles d'agression que peut connaître le Gange. Il a donc principalement pris le chemin de la tradition pour essayer de faire une osmose la plus plausible et la plus profonde avec le respect des traditions et en même temps l'évolution tant démographique que l'évolution
des conditions de vie.
Des conditions de vie de l'hindou actuellement.
Right from the age of 11, when my sacred thread ceremony was performed,
Depuis le jour où, à 11 ans, j'ai reçu avec l'initiation le cordon sacré des Brahmanes, je descends tous les matins au Gange. Je prends mon bain sacré, j'offre mes prières, j'accomplis les rites du matin, et ensuite je remonte au temple célébrer le culte. Ainsi, je suis un homme religieux, très traditionnel, qui ne peut s'empêcher d'aller se baigner au Gange et qui a une relation personnelle avec le fleuve. Un homme pour qui Ganga est une partie importante de sa vie. Et d'un autre côté, je suis un scientifique, un ingénieur. Ainsi, je sais exactement tout ce qui se passe et qu'il y a dans la ville 5 ou 6 égouts à ciel ouvert qui déchargent leurs déchets et leurs eaux usées directement dans le fleuve.
C'est pourquoi le gouvernement a décidé d'investir 2 milliards 900 millions de roupies, c'est-à-dire à peu près 2 milliards de francs, pour dépolluer le Gange dans les 5 grandes villes qui sont situées sur le fleuve. Mais il faut bien dire que tant qu'on ne prend pas de mesures sociales, de mesures qui sensibilisent la population, ça ne sert à rien. On a à Bénarès déjà installé il y a plus de 15 ans 5 stations de pompage qui étaient destinées à remonter l'eau du Gange, à détourner le problème. Et ces stations de pompage pratiquement n'ont jamais marché.
So it has become a social problem. The whole society is involved in polluting the river.
Oui, c'est vraiment un problème social. La société tout entière participe à la pollution du fleuve. On ne pourra résoudre le problème que par des mises en garde et une prise de conscience. Ganga est sacré. On ne peut pas dire le contraire en Inde. Ganga est divine. Elle est comme notre mère. C'est l'absolu sous la forme d'un fleuve. C'est ce que nous croyons. Et le problème, c'est que personne ne sait ce qui arrive au fleuve.
Non, personne. Les riches industriels déversent leurs effluents, les pauvres mettent leurs ordures, leurs défécations, les religieux, hélas, y jettent les cadavres sans incinération. Et on ne peut pas dire aux gens que le Gange n'est pas sacré, mais il faut arriver à leur faire comprendre que la pollution du Gange, c'est vraiment un sacrilège. Et l'Inde entière commence à en prendre conscience.
Anything done here has its influence and effect everywhere.
Oui, quoi que l'on fasse ici à Bénarès, cela compte pour l'Inde entière. C'est ici que nous avons commencé à travailler. Et en moins d'un an et demi, nous avons créé l'INTAC, l'Indian National Trust for Art and Cultural Heritage. C'est formidable ce qui a pu se passer en 3 ans. L'INTAC a été créé alors que Rajiv Gandhi n'était encore que député. Et la dépollution du Gange a été inscrite à son programme. C'est Indira Gandhi qui a commencé, mais par la suite, Rajiv a été tellement ému et touché par ce problème qu'il a voulu lui donner une priorité nationale. Une parenthèse en passant, une parenthèse qui ne va pas tellement nous éloigner de Bénarès. S'il y a une pollution du Gange, une pollution fatalement liée à la vie même du fleuve, la pollution par le bruit est en passe de devenir aussi un drôle de fléau au Piramado.
Ah, la pollution par le bruit est abominable en Inde. Il faut dire que tout le monde a un petit haut-parleur, un petit poste à transistor, et pour bien montrer qu'on en possède un, on le met le plus fort possible, comme tous les voisins savent qu'il marche. Il y a beaucoup d'émetteurs, beaucoup de récepteurs, donc les récepteurs reçoivent différents émetteurs, ça fait déjà un bruit infernal. En plus, vous avez dans tous les quartiers d'énormes haut-parleurs, mais des haut-parleurs d'une puissance inimaginable chez nous, qui servent à diffuser de la musique de film, de la publicité, n'importe quoi, pourvu que ça fasse du bruit et qu'on l'entende. Alors tout ça se mêle, je dis pas en espèce d'oratorio, mais en espèce d'enfer, de pandémonium, comme on dirait en anglais, dont vous allez d'ailleurs avoir quelques échantillons.
Oui, celui-ci est le haut-parleur d'un quartier réputé calme, un quartier d'artisans, celui des potiers à Calcutta.
Et c'est vers 11h du matin.
Ajoutons à ça cet air un peu Tino Rossisque. Alors écoutons maintenant un soir calme, réputé calme, lui, à Delhi.
Conduire sans klaxonner en Inde, c'est inimaginable. Quand vous prenez un taxi, la première chose qu'il fait, c'est appuyer sur le klaxon avant même de mettre le moteur en marche ou de vous demander où vous allez.
Alors par opposition, voici, parce qu'il y a tout de même du silence en Inde, une nuit à la montagne, à Devprayag, sur une terrasse qui domine la vallée où coule l'un des affluents qui vont faire le Gange. Contraste. L'Inde est pleine de ses contrastes, et surtout Bénarès. Habillés comme des soldats de l'armée du salut, avec une tunique bleue, un képi bleu et rouge, voici tuba, clarinette, tambour et grosse caisse, un orchestre qui donne l'oba d'un futur marié. Grassouillet, bedonnant, l'air boudeur et gêné, coiffé d'un turban d'or à aigrette de plumes, il s'avance lentement vers une charrette à cheval, une charrette en panaché, celle des noces, celle qui va aller chercher la mariée. Et il est précédé d'un étonnant cortège, 8 gamins qui portent sur leur tête des lyres, formés par des tubes au néon, du néon qui éclaire, car les tubes sont reliés à un générateur monté sur un tricycle. Lumière, importance de la lumière pour le profane, mais le sacré. Mais ici, il n'y a pas de distinction entre le profane et le sacré. Et ceux qui se souviennent du fleuve de Jean Renoir se souviennent de Diwali. Qu'est-ce que ça veut dire, Diwali ?
Diwali, ça veut dire ce qui a rapport aux lumières.
C'est donc la fête des lumières.
C'est la fête des lumières.
Ou
c'est,
de la
c'est,
lumière.
Non, des lumières. Dipawali. C'est pas tout à fait la fête de la lumière, c'est la fête des lumières. Et c'est dans tout le nord de l'Inde la célébration de la déesse Lakshmi, qui est la déesse de la, non pas seulement de la prospérité, mais vraiment de la richesse. Et c'est une fête qui est célébrée particulièrement dans le nord de l'Inde, et particulièrement dans la catégorie des marchands, qui, en célébrant la fête de Lakshmi, souhaitent la prospérité. Alors, je ne sais pas exactement quel est le symbolisme de ces petites lumières que l'on met partout. Mais il ne faut pas oublier qu'en Inde, la petite lampe à huile a une importance capitale dans toute la vie de l'Inde. Par exemple, nous sommes là maintenant exactement au coucher du soleil. Eh bien, on peut dire que dans toute l'Inde, dans quelques minutes, une petite lumière s'allume. Même quand on est passé de la lampe à huile à l'électricité. Dans les maisons traditionnalistes de l'Inde, et qui n'est pas traditionnaliste en Inde, on allume au moment du coucher du soleil une petite lumière qui reste allumée toute la nuit. C'est comme ça. Et au moment de Diwali, on met beaucoup de guirlandes, genre guirlandes d'arbres de Noël. Il y en a électrique, mais à toutes les fenêtres, il y a une petite lampe. Et c'est vraiment une fête de la joie, surtout dans la soirée où il y a pétards, feux d'artifice, bombes de toutes sortes. On joue de l'argent, c'est un jour où généralement on joue de l'argent parce que c'est un jour de très bon augure. Lorsqu'on célèbre le culte de la déesse Lakshmi, on lui demande effectivement la prospérité et la richesse en argent, en billets de banque. Et c'est une fête aussi où très souvent, on s'enivre un petit peu, ce qui n'est pas généralement permis, mais c'est toléré, comme il y a certaines fêtes en Inde, dans toutes les civilisations, où on dépasse un petit peu la mesure.
Et c'est la même chose pour vous, Loknath, au Bengale, oui.
C'est surtout le Kali Puja. Kali Puja se passe pendant la première nouvelle lune après le Durga Puja, c'est-à-dire au mois de novembre, et disons 20 jours après le dernier jour de Durga Puja. Étant absolument la nouvelle lune, c'est noir, noir, noir. Kali veut dire l'obscurité. C'est une déesse de l'obscurité. C'est une déesse qui se dresse toute nue avec une guirlande, des têtes coupées, des asuras, des démons, et qui se dresse sur la poitrine de Shiva. Shiva, il est blanc, 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 et celle-là, il est absolument noir comme tout. Ce contraste encore, vous voyez, la vie et la mort, et Dipavali, c'est ça. C'est le mariage entre l'obscurité et la lumière, le silence et l'expression, la vie et la mort, etc. Et aussi, c'est un mariage beaucoup plus grand, parce qu'en allumant les lampes dans votre petit coin, vous vous attachez aux étoiles qui brillent dans le ciel, c'est-à-dire c'est un mariage entre votre petit coin et le ciel.
Vous êtes en résonance.
Absolument.
Avec
voilà,
les étoiles.
Ça c'est le sens de Deepavali à mon avis.
La fête de Diwali, c'est la fête vraiment aussi des riches marchands qui souhaitent la prospérité. Et en particulier, on célèbre, dans le Varna, la catégorie des marchands, on célèbre le culte devant le coffre-fort. C'est absolument incroyable. Mais c'est une espèce de demande de richesse, pas seulement de prospérité. Et plus encore, on ouvre un nouveau livre de comptes. Dans les commerces particuliers, les comptes de l'année se terminent juste avant Diwali, on ouvre un nouveau livre de comptes, et c'est particulièrement de bon augure. Comme d'ailleurs, on ouvre un compte en banque quelquefois, un jour de très bon augure, et spécialement le jour de Diwali. Il y a des banques qui sont ouvertes le jour de Diwali pour qu'on puisse ouvrir un compte en banque ce jour-là.
C'est un peu notre agenda de la nouvelle année avec toutes ces promesses.
Oui, si vous voulez. Et mais pour que ces promesses soient encore plus facilement réalisées, je me rappelle un petit village de montagne encore dans l'Himalaya, il y a quelques années, à Almora, où j'avais assisté à la fête de Diwali, et les maisons étaient non seulement ornées de petites lampes à huile, mais sur le porche des maisons, on dessine avec la pâte de riz la trace des pieds de Lakshmi qui va depuis la rue jusqu'à l'intérieur de la maison, jusqu'au coffre-fort, ou jusqu'à l'hôtel où elle est célébrée. Ce qui fait que ses pas sont marqués, et elle n'a qu'à suivre les pas marqués pour arriver dans la maison.
Des ablutions de l'aube à la puja du soir, la vie des ghats à Benares est une perpétuelle offrande de l'eau à la lumière et de la lumière à l'eau. Et les enfants l'apprennent très tôt, ou plutôt ils le vivent car ça ne s'apprend pas. Tel ce petit garçon de 6, 7 ans peut-être, qui, du haut des degrés d'un ghat, trois marches plus haut que le prêtre qui célèbre le culte face au Gange, participe à la scène et, écoutez-le, devance le chant.
Namami Gange tava pada pankajam surasurairom vidrupam bhuktim bhuktim cha muktim cha dadasi nityam bhavanusare
sadah naranam. À cette heure, Benares, c'était le Gange. Un épervier suivait notre bateau entre les feux toujours renouvelés des bûchers et les piles du bois des crémations. Dans le battement du fleuve couleur de chanvre comme la cité, une voix silencieuse citait en moi « Voici les eaux sacrées du Gange qui sanctifient la bouche entrouverte des morts. » La grande prière de l'Inde, que connut sans doute l'Occident lorsque les premières volées de cloches éveillèrent le peuple fidèle dans l'aube mérovingienne, montait de cette multitude qui depuis tant d'années saluait le même fleuve et le même soleil par les mêmes chants et par les mêmes crémations qui brûlaient négligemment ce que l'Occident appelle la vie. De même qu'on rejette des vêtements usés, de même ce qui est vêtu d'un corps rejette les corps usés. Un habit que l'on quitte. Le fils aîné allumait le bûcher du père, les parents bavardaient en fumant. Les chiens maigres passaient nez à terre devant les fils de vautours patients, devant les grands bûchers des riches, les petits bûchers des pauvres et des enfants, et les ascètes aussi nombreux qu'autrefois. La pente était si raide que les morts semblaient descendre debout, la ville sainte s'abandonnait à la vie qui continuait avec une soumission distraite. Ici, c'est le détachement de la vie qu'exprime l'ascète et le bûcher.
Bénarès, la mort a un aspect poétique parce que peut-être à cause du Gange, à cause de ses temples et à cause de ses ghats et tout ça, mais depuis mon enfance, Bénarès m'a paru comme une ville de la mort. Pourquoi la mort? Parce que les gens vont à Bénarès pour atteindre l'immortalité par la voie de la mort. Parce que chez les hindous, il y a cette croyance que Bénarès est une ville sainte et que si on meurt à Bénarès, on s'est libéré du cycle de naissance. Et alors, il y a, surtout à Bénarès, il y a un ghat comme Nimtala Ghat à Calcutta qui s'appelle Manikarnika Ghat, où on amène les cadavres pour les brûler. Et alors, dans ce ghat-là, le feu ne s'éteint jamais. Et surtout, à l'heure de crépuscule, il m'a paru que ce feu-là se mêle au feu du ciel. Et ça fait une symphonie, une harmonie absolument splendide.
Mais ce que vous dites là, Loknath, est impensable sans la présence du Gange, parce qu'il y a un lien profond entre la mort et le Gange, je pense. De même qu'on a le sentiment que le Gange apporte l'éternité, on a le sentiment aussi, quand on voit brûler ses corps au bord du Gange, qu'il retourne à l'éternité. Il y a comme un flux et un reflux.
Je vous vois encore, quand j'étais enfant, de bonne heure, c'est-à-dire vers 4h, 5h du matin, nous étions encore couchés, demi-éveillés, demi-adormis, et on entendait les hymnes que récitaient les pèlerins qui passaient par la rue en face pour aller au Gange. Les hymnes comme Varanasing Purapatim Bhajavishwanatham, Vishwanath, qui s'appelle le maître du monde, qui est aussi la divinité de Varanasi, Benares, qui est un nom de Shiva. Alors, cet hymne, ça veut dire Varanasi, fais ta prière au maître du monde, Vishwanath, qui est aussi le seigneur de cette ville de Benares. Et même à ce moment-là, je me rappelle qu'aussitôt que j'entendais ces hymnes, tout de suite, je pensais à la mort et à cette procession qui va toujours vers l'immortalité. Parlant de ces hymnes, c'est beaucoup après que j'ai appris les hymnes propres, les hymnes védiques, consacré à la mort, comme Om Madhuvata Ritayante Madhungskharante Sindhavaha Madhirina Santo Shadhehe Madhunaktamuto Shaso Madhuvat Parthivang Rajaha Madhudyaurastunah Pita Madhumano Vanaspati Madhumangastu Suryah Madhir Bhavo Gavantunah Ong Madhu Ong Madhu Ong Madhu. Ça veut dire les vins pleins de miel coulent et les océans sont aussi pleins de miel. Toutes les eaux de ce monde sont remplies de miel. Madhumano vanaspati, ce maître de la forêt, ce grand arbre, est aussi plein de madhu. Madhumangastu suryaha, le soleil lui-même est plein de madhu, de miel. Madhir gavo bhavantunaha, que nos vaches soient pleines de miel. Ong madhu, c'est-à-dire je salue le miel, le miel, le miel. Habituellement, après 10 jours de la mort de quelqu'un, enfin, on fait un rituel et ce mantra est récité.
Je revins à travers les étroites ténèbres des ruelles dans un silence opaque. Les escaliers avaient perdu leur caractère babylonien. On ne voyait plus les porches. On voyait à peine les marches. Sur la nuit moins noire que les ruelles, des oiseaux dormaient par rangées. Quelqu'un psalmodiait au loin des vers de la guitare qui définissaient le divin. Je suis le commencement et la fin de tous les êtres. Et dans les vivants, je suis la conscience. Entre ceux qui ont descendance, je suis l'amour. Entre les fleuves, je suis le Gange. Je suis le vent parmi les purificateurs. Je suis le temps impérissable, la beauté, la gloire. La voix monta, et je suis la mort. Il y avait des lueurs rouges à l'entrée des temples, devant les trous creusés dans les murs pour les idoles, et sur les fausses flammes dorées fichées dans la tête des ascètes de pierre. Un pauvre marchand de petits dieux fermait son échoppe. C'était les ruelles de Kapilavastu, lorsque le prince Siddhartha abandonna le palais. La cohue des lépreux avait quitté ses passages, vides comme des volières sans oiseaux, mais les bûchers brûlaient toujours, avec leurs porteurs de Gaules occupés à pousser les cadavres aux orteils écartés, et tout un bavardage à voix basse qui s'accordait à l'imperceptible crépitement des flammes. L'escalier changea de direction, passa sous un porche. Au-dessous de moi, un corps qui crépitait au centre d'un cercle d'hommes immobiles et silencieux faisait rayonner leurs ombres comme une roue de la loi. On entendait encore le psalmodiant. Et je suis la mort de tout et je suis la naissance de tout. La parole et la mémoire. La constance et la miséricorde. Et le silence des choses secrètes.
Vous avez passé cette matinée des autres en compagnie de Pierre Amado, directeur de recherche au CNRS, Loknath Bhattacharya, Lanny Kaur, du bandit Virbada Mishra et le Claude Dupont. Ils vous ont présenté Bénarès d'eau et de feu dans une réalisation de Jean-Claude Duval sur des images sonores de Jean-Paul Beaujelet. Jean Negroni a lu le testament de Nérou et des extraits des anti-mémoires d'André Malraux. Les mixages étaient de Yann Parentoen. Je voudrais vous signaler un livre sur Bénarès, un livre en français qui comble un vide, car il n'en existait pas, c'est le paradoxe, il n'en existait pas en français. C'est un petit livre récent, admirable, sans photos, mais avec les images de la poésie même. Il est d'Yves Véco, il est édité aux éditions du Champ Vallon, c'est à Seyssel, dans l'Ain.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 25 mars 1986. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.